Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le 28 décembre dernier, au nom du groupe État islamique, il appelait encore à commettre des attentats en France et à se rebeller contre le gouvernement. Le djihadiste français Fabien Klein a été tué en Syrie hier, où les derniers combattants de Daesh sont acculés à l'est du pays. Son frère Jean-Michel Klein serait grièvement blessé. Les deux frères ont traversé l'histoire du djihadisme de la France à la Syrie, vous l'entendrez.
L'entreprise Altifort, qui avait obtenu en justice la reprise de la Syrie Ascoval dans le Nord, ne dispose pas des fonds nécessaires. Elle a trompé tout le monde, estime Bercy.
Et les 281 salariés de l'usine nordiste craignent pour leur avenir. À la une encore, le Vatican et le pape François qui attendent des mesures concrètes de l'Église pour lutter contre la pédophilie. Et puis en France, un deuxième vendredi de mobilisation des jeunes pour le climat.
Et puis, dans quelques minutes, la question du jour, Catherine. L'intolérance au gluten est-elle prouvée? On posera la question à Nadine Cerf-Bensussan. Elle est directrice de recherche à l'INSERM.
Ils s'étaient fait connaître dès les années 2000 pour leur implication dans la filière djihadiste d'Artigat, du nom de ce village de l'Ariège. Fabien Klein et son frère Jean-Michel, voix du groupe État islamique dans la revendication des attentats du 13 novembre 2015, ont été visés hier par une frappe de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. La France attend encore une analyse ADN pour officialiser la mort de Fabien Klein, âgé de 41 ans. Son frère Jean-Michel, 38 ans aujourd'hui, aurait été grièvement blessé. Retour avec Antoine Marette sur le parcours de ces piliers de la mouvance islamiste proche de Mohamed Merah et de la cellule qui a perpétré les attentats de Paris et de Bruxelles en 2015 et 2016.
À sa naissance, Fabien Klein n'a pas de lien avec l'islam. Sa famille catholique est originaire de La Réunion et il grandit à Alençon, mais ses sœurs, son frère et lui se convertissent à l'islam. En 2000, il part vivre à Toulouse et très vite, il se radicalise, ainsi que son épouse qui porte le niqab. Il est très vite repéré par les services spécialisés. Il est considéré comme le cerveau d'une filière d'acheminement de combattants en Irak, la filière dite d'Artigat, fondée par Olivier Corel. À ce titre, Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison en 2009 et retrouve la liberté 3 ans plus tard. Pendant son séjour dans la ville rose, il croise la route de Mohamed Merah. Il gagne la Syrie en 2015 avec femme et enfants, malgré son assignation à résidence, ainsi que son frère, lui aussi radicalisé. Les deux hommes deviennent rapidement des piliers de l'État islamique. En juin 2018, ils font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les juges d'instruction ont acquis la certitude que Fabien et Jean-Michel Klein ne faisaient pas seulement partie de la propagande de Daesh, mais qu'ils étaient impliqués dans les attentats de novembre 2015.
La mort de Fabien Klein, un soulagement, mais aussi un regret pour Guillaume Denoît de Saint-Marc, qui dirige l'Association française des victimes du terrorisme. Il s'interroge sur d'éventuelles informations que le djihadiste aurait pu livrer s'il avait été capturé de son vivant.
C'est à la fois un soulagement de savoir qu'il a été neutralisé, parce que c'est quelqu'un qu'on retrouve non seulement dans le dossier du 13 novembre, mais aussi dans de très nombreux autres dossiers. Et donc c'était un personnage central de cette nébuleuse et le fait qu'il soit neutralisé, qu'il puisse plus nuire est un soulagement. Et effectivement, on a aussi un petit pincement au cœur en disant qu'il pourra pas malheureusement être entendu, interrogé, même si nous savions qu'il y avait des grandes chances que même capturé, il ne parle pas. Vous savez qu'on n'agit pas par esprit de vengeance, donc on n'est jamais satisfait de la mort d'un homme, contrairement à eux.
Guillaume Denoît de Saint-Marc, directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme, il répondait à Stanislas Vazak. Les frères Klein, figure du djihadisme, visés donc par un drone hier en Syrie. Est-ce pour la coalition internationale, pour Washington et Paris notamment, une manière de régler en amont la question du rapatriement des combattants de Daesh? On sait en tout cas que la France et les États-Unis coopèrent depuis le début contre le groupe État islamique, échangent d'informations, données GPS, téléphoniques, images de surveillance captée par des drones. Les frères Klein ont-ils été visés hier par un drone américain? La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Le Pentagone ne donne aucune information sur ce tir de drone qui, mercredi après-midi, a visé les deux frères Klein. Mais on sait que 90% des frappes aériennes menées en Syrie le sont par les Américains et que seuls les États-Unis disposent dans la région de ces drones équipés de missiles. Ils partent généralement de la base aérienne d'Al-Assad, dans le centre de l'Irak. Les Américains assument totalement cette politique d'exécution munitions ciblées et de tels drones ont été utilisés en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou en Somalie. On ignore encore pour l'instant quels sont les renseignements qui ont permis de localiser et neutraliser les deux djihadistes français, mais cela démontre que les États-Unis poursuivent leurs frappes aériennes et ce malgré le désengagement annoncé mi-décembre par Trump. Hier soir, la Maison-Blanche a simplement précisé que sur les 2000 soldats américains actuellement déployés en Syrie, environ 200 resteraient encore sur zone pour un certain temps.
La Syrie où les combattants du groupe État islamique sont acculés à l'est du pays, toujours actifs, Daesh a revendiqué hier un attentat à la voiture piégée qui a tué 20 personnes près d'une base de l'alliance arabo-kurde qui combat les djihadistes. Une alliance qui tente d'évacuer les derniers civils piégés dans le village de Baghouz, l'ultime réduit du califat.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est un incroyable revers pour le ministre Bruno Le Maire, une immense déception pour les 281 salariés d'Ascoval.
Les ouvriers de l'aciérie nordiste ont appris hier que le repreneur du site Altifor n'avait finalement pas les financements promis pour reprendre l'entreprise. Bercy ne peut que constater les dégâts. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voulait pourtant montrer avec cet exemple d'Ascoval qu'une industrie française était encore possible à condition de se battre. Mais l'espoir s'est finalement évanoui au bout de 2 mois, Catherine Pétillon.
Pour les salariés, c'est un peu un coup de massue. Leur usine est de nouveau plus que menacée. La nouvelle est aussi un échec pour Bruno Le Maire. Il s'était engagé dans ce dossier et avait soutenu cette reprise par Altifor. Selon l'accord, validé en décembre par la justice, l'entreprise Altifor devait apporter 35 millions d'euros, 10 millions de fonds propres et 25 millions de levées de fonds. Or, elle l'a reconnu, elle n'a pas ces sommes, même si le PDG a surcherché des solutions alternatives. L'annonce a pris tout le monde de court. Les salariés, un peu abasourdis, restent déterminés à chercher des solutions. Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval.
C'est de la colère. Le sentiment de s'être fait plus que flouer. On a du mal à comprendre. On se prend un double coup de bâton sur la tête, là. C'est très mal. Les gens ont du mal à avaler la pilule. Les salariés ont décidé de continuer à produire pour montrer à un éventuel investisseur que les gens sont prêts à aller jusqu'au bout. On travaille avec la région et le ministère à trouver une solution palliative à Altifor avec d'éventuels investisseurs qui avaient émis des marques d'intérêt fin d'année dernière. Aujourd'hui, ces investisseurs contactés ne ferment pas la porte à la possibilité de monter au créneau. Et aujourd'hui, tout le monde a la tête vers ces 2 ou 3 investisseurs potentiels.
Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a réaffirmé sa volonté de soutenir cette industrie et les 281 emplois en jeu. Même volonté du côté de Bercy, même si l'on reconnaît que trouver un repreneur en si peu de temps est plus que difficile. Tous espèrent avoir de nouveaux éléments à présenter mercredi prochain. Ce jour-là, la cession de l'entreprise repasse devant le tribunal de Strasbourg. La reprise par Altifor devrait être annulée. Sans autre solution, on se dirigerait vers une fermeture de l'usine Ascoval de Saint-Saulve.
La Manif pour tous va porter plainte devant la Cour de justice de la République contre Marlène Schiappa pour diffamation publique. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes avait évoqué dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles l'existence d'une convergence idéologique entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes, notamment sur la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, dénonce des propos gravissimes et irresponsables de la part d'un membre du gouvernement dans un contexte terroriste dramatique. Elle avait créé la polémique en parlant de l'islam, de la PMA, la procréation médicalement assistée. La députée de l'Oise, Agnès Thil, avait notamment estimé que l'absence de genre dans le mot parent favorisait l'éclosion d'écoles coraniques, alors que certains députés de La République En Marche avaient demandé son exclusion du groupe à l'Assemblée. Agnès Thil n'a finalement reçu qu'une simple mise en garde de la part de son parti. C'est le dernier avertissement, a prévenu le porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée, Hervé Berville. Au Vatican, le pape François attend des mesures concrètes pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Il réunit depuis hier, pour un sommet inédit, les représentants de l'Église catholique dans le monde, 190 représentants au total, que le pape François veut convaincre d'être responsable individuellement face aux agressions sexuelles sur mineurs. Un sommet qui se déroule au Vatican sous le regard attentif des victimes qui ont bien l'intention de se faire entendre, Mathilde Imberti.
Le sommet sur la pédophilie a démarré par des témoignages chocs, des victimes traumatisées qui dénoncent l'aveuglement de l'institution, le silence qui leur a été opposé quand elles ont voulu dénoncer les faits. Les 114 évêques réunis à Rome les écoutent, bouleversés. Le pape l'est aussi, raconte un témoin de la scène. Les associations qui fédèrent les victimes réclament des garanties et ne lâchent pas d'une semelle les organisateurs de ce sommet inédit. Chaque midi, après la conférence de presse officielle, elles convoquent les journalistes pour redire leurs exigences. Miguel Hurtado est une victime espagnole du scandale des Maris islamiste de Barcelone qui a éclaté en 2016 seulement.
Pour l'instant, il n'y a aucune mesure sur l'indemnisation des victimes. Les victimes sont traumatisées, elles ont besoin de soins et ça coûte de l'argent. C'est l'Église qui doit payer. Ils promettent des mesures concrètes, mais on ne doit pas parler la même langue.
Car le pape a promis des mesures concrètes et avance même 21 pistes de réflexion précises. Mais pour Peter Sanders, victime britannique, il manque l'essentiel.
Tout prêtre ou nonne condamné pour des abus doit être exclu de l'Église à jamais et tout supérieur qui les aurait couverts doit être démis de l'État clérical à vie. Ne pas faire cela, c'est laisser l'Église être un endroit dangereux pour les personnes vulnérables.
Les victimes de prêtres pédophiles organisent pour demain samedi une grande marche dans Rome pour la tolérance zéro.
Elle sera à Paris aujourd'hui aux côtés des jeunes qui manifestent pour un deuxième vendredi consécutif pour défendre le climat. La jeune suédoise Greta Thunberg, devenue une icône mondiale avec sa grève de l'école et son discours à la COP24, est très attendue en France. Hier, elle était à Bruxelles pour un discours devant le Comité économique et social européen avant de se joindre à la manifestation hebdomadaire des jeunes belges. Le reportage d'Angélique Bouin.
C'est une minuscule petite jeune femme de 16 ans, le visage encore poupin avec ses deux longues nattes, mais son regard fixe la salle et dès les premiers mots, le ton est donné.
Si vous pensez que nous devrions plutôt être en classe, alors on vous propose de prendre notre place dans la rue. Faites grève, vous aussi, ou mieux encore, rejoignez-nous pour que les choses avancent. Et si vous estimez que nous perdons notre temps en séchant les cours, alors dites-vous bien que nos leaders politiques ont perdu des décennies en ne faisant rien. On a commencé à nettoyer votre bazar et on ne s'arrêtera pas avant que ce soit fini.
Bousculer la classe politique pour qu'elle passe à l'action, c'est le cœur de son combat. En Suède, elle manifeste chaque vendredi devant le Parlement pour exiger que son gouvernement respecte l'accord de Paris. C'est à l'âge de 8 ans que Greta découvre l'écologie avec l'image d'ours polaires affamés. La jeune fille est atteinte du syndrome d'Asperger, forme d'autisme sans déficience mentale qui peut se traduire par des passions obsessionnelles. Elle dit avoir fait de ce handicap une force. Scène d'hystérie à son arrivée dans le cortège des jeunes Belges mobilisés depuis 7 semaines pour le climat. La police a même dû intervenir. C'est elle qui a inspiré notre mouvement, raconte beaucoup d'entre eux, avec cette idée qu'il faut que les politiques prennent leurs responsabilités.
On a envie que les politiques fassent des grands projets pour changer, prennent des grandes initiatives, parce que c'est bien de changer chez nous des petites choses, mais ça suffit pas.
En face de ces jeunes Belges qu'elle a récemment qualifiés de héros juchés sur une scène, Greta s'est assurée que le mouvement ne faiblirait pas. We will keep on striking until they do something. On va les emmerder avec notre grève jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose, a-t-elle conclu sous une ovation.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. À suivre dans le journal de 7h30, le bras de fer au Venezuela qui se poursuit entre l'opposant Juan Guaido et le président Nicolas Maduro. Sous la forme insolite aujourd'hui d'un duel de concert, l'un pour demander l'entrée de l'aide humanitaire américaine dans le pays via la Colombie, l'autre pour dénoncer une agression des États-Unis. Le temps de ce vendredi 22 février, la grisaille matinale va laisser la place au soleil au fil des heures. Au meilleur de la journée, les températures seront comprises entre 13 et 18 degrés du nord au sud jusqu'à 22 dans le sud-ouest.
Mais oui, quel soleil, 22 degrés, ai-je vu.
Oui, incroyable, dans le sud-ouest, c'est ça.
Incroyable. Oui.